Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 24 mai 1920, le président de la République tombe du train. Un homme créé pour séduire, gravi d'une marche légère, le destin souriant, qui de succès en succès le conduit au sommet de ses rêves et à peine l'a-t-il atteint qu'il s'effondre, écrit Adrien Danzette à propos de Paul Deschanel dans son Histoire des présidents de la République. Membre de l'Académie française, président de la Chambre des députés durant 12 ans, Paul Deschanel, qui n'a jamais accepté de fonction ministérielle malgré les très nombreuses sollicitations, est élu président de la République le 17 janvier 1920. Il triomphe de Georges Clemenceau, le père La Victoire. Il souhaite rendre la magistrature suprême plus active, mais il ne reste au pouvoir que 7 mois. En effet, il démissionne à la suite de graves ennuis de santé et décède le 28 avril 1922, après avoir été élu sénateur de l'Eure-et-Loire un an plus tôt. Dans la nuit du 23 au 24 mai 1920, Paul Deschanel voyage à bord du train présidentiel. Il se rend à Montbrison pour inaugurer le monument à la mémoire du médecin, sénateur et pionnier de l'aviation, Émile Raymond, tué au champ d'honneur durant la Première Guerre mondiale. Le lendemain de Pentecôte, 24 mai, Louis Le Sueur, sous-préfet de Montargis, est réveillé à 5 heures par un bleu du service télégraphique PLM numéro 21064. Ainsi libéré, un homme se disant « Monsieur Deschanel » est tombé du train présidentiel au kilomètre 110. Autorités locales et docteurs sont prévenus. Louis Le Sueur gagne les lieux de l'incident en voiture. Il y rencontre André Radeau, le garde-barrière, qui, faisant sa tournée peu après le passage du convoi présidentiel, s'est trouvé tout à coup en face d'une ombre qui marchait péniblement entre les voies. Elle lui dit alors « Je suis le président de la République et je suis tombé du train ». André Radeau se rend vite compte que l'homme a le visage ensanglanté. Il ne croit pas à l'identité annoncée et pense aussitôt avoir affaire à un ivrogne. Il l'a donc un peu rabroué avant de le mener à la maisonnette du passage à niveau le plus proche. Là, le blessé est accueilli par Gustave Dario, poseur, et son épouse qui est garde-barrière. Il est environ minuit et demi. Les blessures à la face, au coude et au genou sont lavées et soignées, puis les époux Dario couchent dans leur lit le blessé tout grelottant. Fortuné Carré, gendarme de la brigade de Corbeil, prévenu par Gustave Dario, se rend avec son collègue Victor Mollard auprès du blessé pour recueillir ses premières déclarations. Les gendarmes reconnaissent le président de la République et avisent téléphoniquement le capitaine de la gendarmerie de Montargis. Louis Le Sueur, arrivé au chevet de Paul Deschanel, le conduit à la sous-préfecture distante d'une douzaine de kilomètres. Là, le président prend un petit déjeuner léger et reçoit une piqûre antitétanique. À 11h du matin, un bulletin de santé est publié. État aussi satisfaisant que possible, érosion superficielle de la face et de la jambe gauche, accompagné de son épouse et du président du conseil Alexandre Milleran, qui l'a rejoint à Montargis en fin de matinée, Paul Deschanel rentre à l'Élysée vers 19h. Les caricaturistes et les journalistes sont sans pitié pour celui dont l'un des biographes écrit « Physiquement, il possède au maximum la prestance, la tenue si nécessaire à cette magistrature. Il est dommage que les facultés mentales de Paul Deschanel n'aient pas été à la hauteur d'un aussi beau physique. » Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire Un jour trois livres qui a été préparée par Emmanuel et ce sera 4 livres exceptionnellement aujourd'hui. Mais d'ici là, une pause musicale Avec Jacques Brel, qui nous accompagne en chanson durant cette émission, nous écoutons un titre de 1964, Amsterdam.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leur grosse m'invite à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs, enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, je vous disais qu'il y en aura quatre aujourd'hui, à commencer par Le Vicomte et les Mousquetaires, c'est le tome 1, L'ombre des roses croix, c'est signé Lawrence Ellsworth, aux éditions Le Cherche Midi. En 1626, au moment où D'Artagnan quitte sa province, Louis d'Astarac, jeune vicomte gascon, prend lui aussi le chemin de la capitale afin de retrouver un mystérieux livre censé renfermer les principaux secrets de la confrérie des Rose-Croix. Celui-ci suscite de nombreuses convoitises, en particulier celle du cardinal de Richelieu et du duc de Buckingham, mais aussi des jésuites qui veulent le détruire. Conseillé par Aramis et ses amis mousquetaires, notre héros entre alors dans un jeu dangereux où les intrigues politiques, ésotériques et sentimentales ne tardent pas à se multiplier. Sa rencontre avec Milady de Winter va bientôt le précipiter au cœur d'un sombre complot visant la royauté. Voici donc un roman dans le roman d'Alexandre Dumas. Se déroulant en parallèle avec ce dernier, le lecteur y reconnaîtra bon nombre de scènes et de personnages du livre de Dumas sous un angle complètement nouveau. Et l'on y retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès du grand romancier français, en particulier son penchant pour les coulisses de l'histoire, les conspirations et les sociétés secrètes. Cette aventure passionnante sera suivie d'un second volume, La Conspiration Richelieu. Le Vicomte et les Mousquetaires, tome 1, L'ombre des Rose-Croix, de Lawrence Ellsworth, aux éditions Le Cherche Midi. Le Lotus jaune d'Hélène Jacobé chez Héloïse d'Ormesson. Voici un roman qui met en exergue la première milice de femmes en Chine et son instigatrice Lin Eyer en 1870. La famine ravage l'empire du milieu, fille d'un pauvre batelier, Lin Eyer n'est qu'une enfant lorsqu'un directeur de cirque remarque ses talents d'acrobate. La joie de rejoindre la troupe est vite remplacée par l'effroi lorsqu'elle réalise que des sauts périlleux intéressent moins que son corps. Déterminée à se construire une existence libre, elle refuse de se soumettre et s'enfuit. C'est le début d'une métamorphose pour celle qui deviendra courtisane, puis guérisseuse, avant de fonder les fameuses lanternes rouges pendant la guerre des boxeurs. Ces aventures nous emportent à l'ère crépusculaire des Qing, au cœur des machinations de la redoutable impératrice Cixi. Le Lotus jaune d'Hélène Jacobé s'est publié aux éditions Héloïse d'Ormesson. Léonie B., La passion secrète de Victor Hugo, de Sébastien Spitzer aux éditions Albin Michel. Voici l'histoire d'une femme remarquable, au caractère bien trempé et quelque peu aventurière. À 19 ans, Léonie B. participe à l'expédition Spitzberg, déguisée en homme. Dès son retour, elle épouse le peintre François-Auguste Biard, mais tombe amoureuse de Victor Hugo. En 1844, ils ont 20 ans d'écart. Lui vient de perdre sa fille Léopoldine et surtout d'être nommé pair de France. Il est intouchable, elle non. Tous deux bravent les interdits de leur mariage respectif pour vivre leur passion. Elle est arrêtée à la demande de son époux et envoyée à la prison pour femmes de Saint-Lazare pour adultère, inspirant les premiers chapitres des Misérables. Léonie B., La passion secrète de Victor Hugo, de Sébastien Spitzer, c'est aux éditions Albin Michel. Et pour finir cette chronique, Un zèbre dans la guerre, de Vladimir Vertlib, aux éditions Métaillé. Voici un livre prémonitoire, publié avant la guerre en Ukraine. Dans une ville d'Europe de l'Est, au bord de la mer, peuplée de Russes et d'Ukrainiens, un ingénieur se trouve confronté à la montée du risque de guerre. La ville bascule dans l'extrémisme et l'arbitraire. Des opérations policières élargies sont menées contre les terroristes. L'ingénieur s'épanche sur les réseaux sociaux et met sa famille en danger. Il est pris à partie par les gouvernements qui se succèdent, mais aussi dans les réseaux sociaux. Un zèbre dans la guerre, de Vladimir Vertlib, s'est publié aux éditions Métaillé. Voici le temps de se séparer. Merci à Emmanuel qui a préparé cette chronique. Merci à Thomas qui a réalisé cette émission. Et c'est en chanson avec Jacques Brel que nous nous quittons. Un titre de 1962, Bruxelles.
C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait les vitrines, avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine, dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il avait su y faire, elle avait laissé faire. Il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles bruselait, sous les lampions de la place Sainte-Justine, chantaient les hommes, les femmes en crinoline, sous les lampions dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus, et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère, il attendait la guerre, elle attendait mon père, ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps Bruxelles chantait, c'était au temps Bruxelles, Bruxelles.